voix nue. À l'occasion de la remise à Cannes du prix France Culture Cinéma Consécration 2016 à Frédéric Wiseman pour l'ensemble de son œuvre, nous réécoutons ses entretiens avec Charlotte Garçon enregistrés en 2006. Ce soir, pensée ciseaux en main, le montage.
Hier, nous avons abordé les modalités pratiques du tournage documentaire. Aujourd'hui, nous voyons ce que vous faites, Fred Wiseman, avec ce matériau, une fois qu'il est dans la salle de montage et que vous êtes seul face à ces centaines d'heures, ces milliers de mètres de pellicule 16 mm.
À la fin du tournage, j'ai à peu près, en général, 100 heures de rush. Et ces 100 heures n'ont pas aucune forme. Et il faut que je trouve le film parmi ces 100 heures. Et comme ça, il faut que j'ai tout de fait une étude de tous les rushs. La première chose que je fais quand je reviens du tournage, c'est de... je regarde tout. Et il y a un cahier où chaque prise a un numéro et une petite phrase qui est un sommaire de qu'est-ce qui se passe dans cette prise. Je regarde tout et j'utilise un système très connu en France qui est adapté du guide Michelin. Je donne des séquences 1, 2 ou 3 étoiles ou pas d'étoiles, mais pas de fourchette. Et comme ça, ça me, après que j'ai tout vu, j'ai une idée de une liste de séquences qui peut sont des candidats pour le film. Et puis je commence à les monter. Ça veut dire, et je ne les monte pas à cette moment, je n'ai aucune idée quelle sera la structure du film. Et je ne pense pas beaucoup de structure à ce moment, parce que moi, je ne peux pas penser de structure dans l'abstrait. Il faut que je fasse des essais. Et puis, ça m'a pris peut-être 7-8 mois de monter toutes les séquences qui sont possibles, sont des candidats pour le film final. Et après cette période, j'ai toutes ces séquences sur le mur ou à côté de moi sur une table. Et dans 2-3 jours, je fais le premier essai de structure. Et je peux le faire assez vite à ce moment parce que je peux faire une récitation de dialogue de toutes les séquences. Parce que je l'ai vu si souvent et j'ai fait des choix et j'ai fait des essais et tout ça. Et le premier assemblage est à peu près 30 ou 40 minutes plus long que le film final. Et puis, je commence à étudier cet assemblage et par exemple, quand je fais le montage d'une séquence, peut-être cette séquence a un début, un centre, une fin. Et quand on voit cette séquence en relation avec une autre, on n'a plus besoin de la première partie, le début, parce que c'est mieux dans l'autre. Et comme ça, je coupe. Et je travaille à ce moment beaucoup dans le rythme dans l'intérieur des séquences et aussi le rythme entre les séquences, c'est-à-dire la façon qu'on passe d'une séquence d'une autre pour arriver à une séquence plus dramatique et comment je vais commencer le film, comment je vais terminer le film. Avant que je termine le montage, dans un certain sens, le montage, c'est une façon de parler avec soi-même. Parce que je monte seul. Parce que je trouve trop distractant que quelqu'un d'autre est dans la salle de montage. Et je travaille, après le premier assemblage, je travaille beaucoup sur l'idée de rythme et de structure. Et après une autre 4-5 semaines, j'arrive à un montage final et puis je prépare le son pour le mixage. Mais tout le montage, je trouve tous les aspects du film documentaire intéressants, mais je crois que je préfère un peu le montage parce que on a la possibilité d'essayer de penser et c'est ce qu'on a à voir devant mes yeux et mes oreilles. Et il faut que tous les aspects du cinéma sont des choix. On a le choix de sujet, soit de comment on va le tourner, le durée de tournée, tout ça. Mais on fait des choix finaux dans la salle de montage. Et moi, même si j'arrive à couper dans la douche ou marchant dans la roue, je dois m'expliquer avec mes mots pourquoi j'utilise cette coupe, pourquoi c'est là, dans cet moment dans le film, pourquoi je commence le film avec un plan de ça, pourquoi je termine le film avec telle et telle séquence, quelle est la relation entre toutes les séquences dans le film. Et je dois m'expliquer, je dois m'offrir une rationalisation pour tout. Et c'est très intéressant parce que il faut que, au début, il faut que j'identifie qu'est-ce qui se passe. Il y a une séquence. Le monsieur Blanche et le gendarme, l'officier de police au film de sécurité sociale. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le client ivre? Il a après quel âge? Est-ce que c'est vrai qu'il était dans la guerre de Corée ou la Deuxième Guerre mondiale? Pourquoi est-ce que le policier est si patient? Quel est l'entraînement de policier? Est-ce qu'on peut le croire? Quelle est la relation entre le fait qu'une est assise, l'autre est debout? Quel est le ton de voix? Quels sont les mots qu'ils ont choisis? On doit essayer de mettre tout ça dans le mélange. C'est un mélange, mais c'est nécessaire de faire les coupes. Premièrement, de prendre la décision si on utilise ou non. Et deuxièmement, pour prendre les décisions comment on va l'utiliser, il faut, le plus qu'on peut penser de ce qu'on a devant mes yeux, ça m'aide beaucoup. Et ça, ce n'est rien à faire avec le cinéma. Ça représente tout ce que je suis. Parce que c'est une indication de mon éducation, de ma famille, mes voyages, tous mes intérêts. Je ne suis pas aucun principe, sauf que j'essaie de comprendre ce qu'il y a devant mes yeux et mes oreilles. Le vrai montage, c'est de m'expliquer ce que j'avais.
Mais Fred Wiseman, ces dernières années, le cinéma documentaire a eu une sorte de succès vraiment inattendu aux États-Unis dans les salles. Et les films documentaires qui ont le plus marché, c'était des films extrêmement didactiques, des sortes de dossiers ou d'essais. On pense bien sûr à Michael Moore qui a eu la Palme d'Or pour Fahrenheit 9/11 ou à Robert Greenwald. Il y a toujours eu un malentendu peut-être autour de vos films sur la question de la soi-disant objectivité du documentariste.
Moi, je crois qu'il n'y a aucun film qui est objectif. J'ai aucune idée. Je trouve ce mot comique quand on l'utilise en relation des films. Certainement de mes films. Moi, j'espère que mes films sont juste fair en anglais, objectif, même si on tourne avec 360 caméras, chaque angle, je ne sais pas s'ils sont objectifs, mais j'espère que mes films ne sont pas idéologiques. Dans le sens, parce que moi, je n'ai jamais trouvé une idéologie qui m'explique tout ce qui se passe devant mes yeux. Je n'aime pas les films didactiques, au cause de cette philosophe Goldwyn que je viens de parler, parce que je trouve que les films didactiques sont très condescendants au public, aux spectateurs. Moi, je crois que la technique que j'utilise, quand ça marche parce que le spectateur est plongé dans les événements et il a assez de renseignements de considérer de lui-même c'est ce qui se passe. Et moi, mon avis, mon opinion est présenté par les séquences que j'ai choisi d'utiliser et l'ordre, la structure dans laquelle je les présente. Et dans ce sens, mes films ressemblent plus des romans que le journalisme ou les actualités sur la télévision. parce que le montage, pour moi, ça ressemble un peu à l'écriture. Moi, je crois que les documentaires qui sont des grandes réussites aux salles sont les documentaires assez simplastiques. Ils sont des documentaires équivalents des films hollywoodiens. Et je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de documentaires qui seront grandes réussites au cinéma. Parce que pour un film d'être une réussite commerciale au cinéma, ça doit jouer dans, je sais pas, 600 salles en Amérique. Parce que la publicité est très, très, très chère. Et même si vous demandez des gens de mettre en scène des films qui ont beaucoup joué dans les salles, si, sauf Michael Moore, si vous les demandez s'ils ont gagné l'argent au cours de cette distribution salle, en général, ils vous disent presque rien. Mais même s'ils sont présentés dans beaucoup de salles, c'est bien pour la vente de DVD, mais c'est une question très compliquée. Mais en tout cas, moi, je ne sais pas comment penser des spectateurs, parce que le seul pensée que j'avais dans ce sens, c'est que le spectateur est si stupide ou si intelligent que moi. Parce qu'autrement, c'est condescendant. Parce que moi, par exemple, quand je tourne Welfare en 73, je n'aurais aucune idée que le film sera présenté en France 10 ans plus tard. Qui serait le public en France? Quel est, ou même en Amérique, quel est le niveau d'éducation, le niveau d'intérêt, quels sont les romans, les journaux, l'expérience du spectateur? La seule chose qu'on peut faire quand on commence à penser des spectateurs, c'est de tourner et monter un film le plus simple possible en pensant qu'on doit présenter le film à les gens les plus stupides, parce que si on présente les gens les plus stupides, on peut toucher le plus grand public. Et ça n'a aucun intérêt pour moi.
Fred Wiseman dans Titty Cut Follies, donc votre premier film que vous montez en 1967 sur cette prison psychiatrique, il y a des coupes qui choquent. Notamment, je pense, cet homme, je crois qu'il s'appelle Jim, et qui est à un moment nourri à la sonde parce qu'il n'arrive plus à s'alimenter. Et en plein milieu de cette séquence, vous intercalez des morceaux de scène où on le voit déjà en train d'être enterré. Enfin, d'être mis en bière, oui. Et on voit son corps rangé à la morgue. 30 ans plus tard, dans un film par exemple comme Belfast Maine de 1999, vous n'avez plus du tout ce type de coupe.
Non, je crois, à mon avis, maintenant, c'est une erreur, cette coupe, parce que c'est trop didactique, parce que je force le spectateur de penser de relations entre la façon qu'il est traité quand il était vivant et quand il était mort. Et si je fais le montage de cette séquence maintenant, j'aurai le montage où il le nourrisse, et puis peut-être une autre séquence, et puis un peu plus tard, la séquence quand il est préparé pour l'enterrement. Parce que je crois que c'est trop... C'est trop souligné. À mon avis, c'est une erreur. Que j'espère que c'est sûr que je fais des autres erreurs maintenant, mais je ne fais pas celle-là.
Et en même temps, ce travail de montage dont vous parliez, c'est aussi une façon de faire des envois à la fin de vos films. Et je pense à High School, où il y a cette séquence finale où la proviseure lit une lettre d'un ancien élève qui est à ce moment-là sur le front au oui. Vietnam et qui dit voilà, j'essaie juste de do my job, I'm doing my job, je fais mon métier. Oui. Et où elle dit ben voilà, je vous lis cette lettre émouvante et finalement c'est la preuve que nous, éducateurs, nous avons très bien travaillé ici.
Oui, mais c'est aussi très ironique, j'espère. Parce que on peut penser que si c'est ce soldat qui a grand peur naturellement de son travail en Vietnam, et une bonne mais qu'il accepte l'idée un bon produit de ce système d'éducation, peut-être ça peut être un problème avec le système d'éducation. Et c'est peut-être aussi trop didactique, mais je ne crois pas. Mais j'ai placé cette séquence à la fin du film parce que j'espère que quand quelqu'un entend ça à la fin, ils vont repenser tout ce qu'ils ont vu avant. Ça veut dire, et c'est un peu comme M. Hirsch à la fin de Welfare, avec la référence de Godot. Le fait que c'est le chef de l'école, le principal de l'école, qui lit cette lettre de soldat de Vietnam, le fait qu'elle est très fière de cette garçon et de cette lettre, ça, pour moi, ça me pose la question, quel est le but de l'éducation qu'il a reçue à cette école parmi ses professeurs?
Et est-ce que, Fred Wiseman, la réception de ce film aux États-Unis a correspondu à vos attentes? C'est-à-dire, est-ce qu'on a perçu l'ironie presque tragique de cette lettre?
C'est difficile à répondre parce que, quelquefois, oui il y a des gens... c'est difficile de bien comprendre comment les films sont reçus. Naturellement, vos amis... Vous dites qu'ils aiment les films, mais les gens ne vous ont jamais dit directement qu'ils n'aiment pas. Et je lis les choses qui sont écrites, et quelquefois les gens comprennent le film dans la façon que je crois que moi je les comprends, mais qu'ils comprennent, mais quelquefois non. Naturellement, la réception du film m'intéresse, mais ce n'est pas pourquoi je tourne les films. Si je n'avais pas mes idées peut-être assez fixes, je serais perdu. Et je ne dépends pas de la réaction des autres.
Fred Wiseman, lorsque vous montez, comme vous dites, vous réorganisez ce matériau et vous lui donnez sens.
J'espère.
Est-ce qu'il y a un moment où vous avez l'impression que vous pouvez aller trop loin et vous faites d'autres coupes? Comment ça fonctionne?
Oui, ça c'est toujours le danger. Naturellement, je ne crois pas, mais peut-être je me trompe parce que mais je suis très consciente de ce problème parce que c'est lié c'est ce que j'ai dit avant. Je crois que j'ai une grande obligation aux gens qui m'ont donné permission de ne pas les, comment on dit ça, trahisonner.
Trahir.
Et je fais beaucoup d'attention à cette question. Mais quand même, si les choses sont comiques, tout ce que je fais, c'est, moi, je reconnaître les choses qui sont comiques. Ce n'est pas... C'est comique parce que la situation est comique. Ce n'est pas comique parce que c'était tourné dans une façon comique. C'est comique parce que l'échange des mots, qu'est-ce qui se passe dans la situation est comique. Et je crois que c'est comme ça, les événements comme ça, je peux utiliser. Comme aussi la même chose pour les choses tristes ou tragiques.
Il y a une dramaturgie du documentaire.
Oh oui, certainement, parce que autrement c'est un document, c'est peut-être une chose anthropologique. Il y a toute une dramaturgie. On ne commence pas le film avec la plus grande scène. C'est pour ça que je vous ai dit il y a quelques minutes que la construction, la façon que j'arrange les séquences, c'est à mon avis, ressemble un peu à l'écriture. Il y a tout le même problème. Il y a la question de passage de temps, comment présenter les choses abstraites, comment présenter les choses qui donnent sens de le personnage, la relation entre les événements dramatiques, comment les séquences sont liées. Une fois, j'ai donné un cours en faisant une comparaison entre la façon que le même sujet était traité dans un film, un roman, une pièce. Et je ne sais pas si les étudiants en aimaient le cours, mais c'était très intéressant pour moi. Par exemple, il y a le grand écrivain hongrois George Conrad a écrit un roman autour d'un centre de sécurité sociale à Budapest. Et j'ai lu ce roman quelques années après que j'ai terminé Welfare. La plupart des situations est exactement la même, sauf les normes étaient différentes, parce que c'était les normes de l'Europe centrale, mais la situation humaine était à peu près la même. On peut dire que, les gens qu'on voit au centre de sécurité sociale à New York étaient le produit de capitalisme. Mais on voit à cette époque, on peut dire que les gens qu'on voit à la Centre de sécurité sociale à Budapest étaient les produits du communisme. Mais ils étaient les mêmes. Et ça complique le problème. Mais ça m'intéresse beaucoup la façon qu'il a traité la même situation avec les mots. Et moi, j'essaie de traiter avec les images et les mots des gens parlant. Et parce qu'un écrivain peut, s'il veut dire quelque chose, présenter une idée abstraite, il peut toujours utiliser les mots un peu abstraits. On n'a pas cette possibilité dans le film documentaire, sauf que les gens parlent dans un langage abstrait. On doit trouver la façon de présenter les abstractions avec la relation des images. Et la suggestion que le montage des images dans une certaine façon peut donner le spectateur. Mais on doit traiter avec des abstractions, mais la façon qu'on essaie de trouver les solutions sont tout à fait différentes. Mais même si le but est le même.
Fred Wiseman, il y a une autre façon dont vous avez rendu plus abstrait un texte, et cette fois-ci, c'est dans votre fiction, La Dernière Lettre, où vous filmez un monologue de Catherine Samy, et où vous travaillez la lumière, cette fois.
Oui, mais ça, c'est tiré de le grand roman de Grossman, Vie et Destin. C'est un chapitre, en Amérique, c'est le chapitre 17, peut-être un autre nom ici. Mais c'est une lettre que un médecin femme juif a écrit à son fils quelques jours avant qu'elle soit tuée par les Allemands qui sont venus occuper le petit village où elle habite dans l'Ukraine. Et c'est une sorte de récapitulation de sa vie et qu'est-ce qui se passe quand les Allemands sont arrivés et comment tous les Juifs étaient mis dans l'ancien ghetto et la réaction des voisins ukrainiens et la réaction parmi les Juifs et tout ce qui se passe juste avant sa mort. Et c'est aussi l'histoire d'une femme et son fils bien-aimé. Et je n'ai pas changé grand-chose de langage de Grossman, traduit en français, naturellement, mais le problème, c'est comment suggérer tout cet endroit. Et pour moi, la solution que j'ai trouvée, j'ai fait ça au plateau et aussi après la même façon, mais un peu différente dans le film, que tous les autres personnages sont présents, mais ils sont des ombres. Par exemple, quand le personnage parle de ses voisins, on voit peut-être deux ombres derrière. Quand elle parle de voyage des Juifs, les Allemands les envoyaient de le vieux ghetto, l'ancien ghetto, on voit peut-être 40 ombres sur la plate, sur l'écran, sur le cyclo derrière. Et comme ça, c'est un film autour de l'idée des fantômes. parce que tous ces gens sont morts depuis plus que 60 ans. L'idée, c'est, au début, c'est de trouver un moyen de présenter ces événements qui sont déjà passés très longtemps dans une façon que les gens peuvent les comprendre et suggérer. C'est toujours, c'est le même problème dans les films documentaires. Comment présenter les images et le son que un spectateur peut entrer dans ce monde, comprendre qu'est-ce qui se passe et présente une histoire dramatique et pas didactique. Et c'est toujours l'effort, c'est toujours de trouver le moyen de le faire.
C'est étrange qu'on revienne à une femme et une lettre, puisqu'on en parlait déjà à la fin de high school, cette proviseur qui lit la lettre.
Ça, je n'ai jamais pensé. Non, ça, c'est le hasard, je crois. Sauf qu'il y a quelque chose caché, très psychologique dans ma tête que je n'ai pas, jusqu'à l'instant, n'ai pas pensé. Mais non, je crois ce n'est pas lié au high school. Mais c'est lié, je crois, que j'étais jeune pendant la Deuxième Guerre mondiale et j'ai beaucoup parlé avec mon père, qui était néant aussi, qui est venu en Amérique en 1890. Moi, je me souviens très bien les discours de Hitler sur la radio et tout ça, et toute ma jeunesse, on a entendu les actualités pendant le dîner chaque soir, parce que c'était en pleine guerre. Et comme ça, je crois, on ne peut pas jamais comprendre ces événements, mais on a toujours essayé de découvrir qu'est-ce qui se passe. C'est lié au parce que je suis juif, j'ai beaucoup lu de toutes ces questions, je ne les comprends pas. Et c'est pour ça, c'est mon essai, c'est un effort de dire quelque chose, essayer de dire quelque chose autour de ce sujet.
Merci, Fred Wiseman.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Charlotte Garçon avec Frédéric Wiseman, enregistrée en 2006. À voix nue. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Annick Brien, réalisation Franck Lilin, Delphine Lemaire, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.